Vous êtes prêts? Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent ?» Ils abordèrent dans le pays des Gérasséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion, » répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita à des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Gérasséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. À son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Et voici vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant « Ta fille est morte. N'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui t'était arrivé. Voilà, nous étudions la vie de Jésus à travers le récit de Luc. Bien sûr, la grande question, c'est qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Qui est ce Jésus? Et pour nous aider à répondre à cette question, Luc enchaîne ces quatre histoires, quatre rencontres dont nous avons lu le récit. Alors, je sais que chacune pourrait faire l'objet d'une étude approfondie, mais ce matin, j'ai choisi de les traiter ensemble parce que Luc semble vouloir les lier ensemble aussi. C'est-à-dire, vous prenez les disciples dans la barque, le démoniaque, la femme atteinte d'une perte de sang, et Jairus, sa fille, et quelque part, ils sont tous dans la même barque, si je peux me permettre. Ils peuvent tous dire, nous périssons. Chacun traverse une tempête. Et ce que nous voyons, c'est que Jésus va apporter un salut, une guérison à toutes ces personnes. Et une chose notamment qui signale que Luc veut les regrouper, c'est qu'à chaque fois le même mot grec, le même mot revient, ce mot qui est traduit salut ou guérir, guérison, en grec sozo. En verset 36, le démoniaque avait été guéri ou sauvé. En verset 48, ma fille, ta foi t'a guéri, t'a sauvé. Verset 50, le même mot encore, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Et même les disciples le disent, en tout cas dans les autres évangiles, quand ils sont dans la barque, ils disent eux aussi, sauve-nous, nous périssons. Même mot, même verbe. Donc quatre fois, Jésus va guérir, sauver, même mot, même idée, toutes ces personnes. Et ce qu'on voit finalement, c'est que Jésus, dans ce chapitre, il va confronter quatre forces destructrices qui mettent l'être humain en péril. Quatre forces destructrices, le monde physique, le malin, la maladie et la mort. D'accord ? Le monde représenté par la mer en fureur, la mer instable, la mer en tempête. Ensuite, le malin, avec ce démoniaque. Ensuite, la maladie, l'infirmité de cette femme. Et enfin, la mort. Quatre forces destructrices où Jésus va apporter une délivrance, un salut, une guérison. Et toutes ces choses, la nature, le malin, la maladie, la mort, sont les effets de la chute depuis le début de l'histoire de l'homme, mais dans ce chapitre, Jésus va montrer qu'il est celui qui peut défaire les effets de la chute, il est celui qui peut réparer notre monde et nos vies et nos cœurs. Alors, ce matin, j'aimerais regrouper un peu ces quatre histoires et essayer de voir les éléments communs dans chacune. Chacun qui peut dire « nous périssons », chacun qui va connaître un salut. Donc, voyons. Premier élément commun, j'en ai retenu quatre ce matin, c'est on trouve dans la présence de chacun un mal destructeur. La présence d'un mal qui menace, un mal qui met en péril. Donc, déjà les disciples sur la barque, dans ce tourbillon, eh bien c'est exactement ça. Ils sont en péril, le verset le dit, ils sont en péril. Non seulement leur barque risque d'être détruite, mais leur vie aussi. Mais en plus, ça aide de savoir que dans la Bible et dans beaucoup d'autres littératures, la mer en tempête, la mer houleuse, eh bien, cette mer en furie représente souvent les forces destructrices, les forces chaotiques, les forces indomptables de l'univers qui nous détruisent. Même dans notre langage courant, lorsqu'on dit qu'on traverse une tempête, on parle souvent plutôt des circonstances difficiles de la vie, des choses qu'on ne maîtrise pas, des choses qui nous privent de vie et de bonheur. Ce thème revient pas mal dans la Bible. Dans la Bible, les rivières et les fleuves, souvent, c'est bien, ça apporte la vie, la bénédiction, c'est joli, une rivière, un fleuve. Tandis que la mer agitée, la tempête, c'est le contraire de la rivière, du fleuve. C'est la destruction, c'est le danger. Donc c'est pour ça que dans le jardin d'Éden, il y avait des fleuves, mais il n'y avait pas de tempête, il n'y avait pas de catastrophe naturelle, il n'y avait pas ce vent, ce tourbillon. Mais une fois que l'homme est chassé du jardin d'Éden, une fois que le chute, la conséquence du chute du péché tombe sur l'univers entier, on va trouver ce genre de choses. Mais ce qui est intéressant, à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse, quand Jean a une vision un peu du paradis, il fait une remarque à un moment, il dit « Et la mer n'y était plus ». Il y a ce fleuve de vie, ce fleuve, mais il n'y a plus la mer pour montrer qu'il n'y a plus ces forces destructrices, chaotiques de notre monde. Et c'est intéressant, même dans le texte, il dit que Jésus menaça le vent. D'autres traductions, dans d'autres évangiles aussi, il réprimande le vent. Alors, pourquoi il menace, pourquoi il réprimande le vent? Où est le mal? En quoi le vent est coupable de quelque chose répréhensible? C'est-à-dire, au sens purement scientifique, on ne peut pas dire la nature fait bien des choses ou la nature fait mal des choses, c'est la nature, c'est comme ça. Mais nous voyons ici que justement le monde physique, le monde naturel connaît en quelque sorte une corruption, une rébellion qui va provoquer cette réprimande de la part de Jésus. C'est pas bien ce que tu fais, vent. Donc un mal destructeur déjà, imagé, fortement bien imagé par cette tempête. Mais si on prend l'ensemble de ce chapitre, nous voyons que le problème dans notre vie, dans notre existence, ce n'est pas que physique, matériel. Le cas suivant, ce démoniaque, rappelle qu'il existe une source spirituelle. Il existe un mal destructeur qui vient du malin. Satan, les démons. D'ailleurs, un des noms de Satan dans la Bible, en Apocalypse, on parle du chef de l'abîme et on l'appelle Apollyon. Apollyon, qui est le même mot que nous périssons, périr, que les disciples disent, destructeur. Et effectivement, c'est ce qu'il fait, il est un destructeur. Et nous voyons ce qu'il a fait dans la vie de cet homme. Cet homme est détruit, ravagé, tourmenté. Et l'influence du démon sur cet homme va pourrir toute la région. C'est forte l'étendue de la destruction ici dans la vie de cet homme. Dieu nous a créés pour vivre en relation avec lui et pour vivre en relation saine avec les autres. Mais le mal, Satan, détruit ces choses. Et donc il n'y a plus cette relation avec Dieu comme un démoniaque qui est possédé, qui veut quelque part rien avoir avec Jésus. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Et puis toutes ces relations sociales, on va dire, sont détruites aussi. Le verset 27, c'est fort, il dit « Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements, il avait sa demeure non dans une maison, mais dans des sépulcres. » Il est incapable de demeurer, d'habiter avec d'autres dans une maison, dans une communauté, dans une société, dans la cité. Il n'habite pas dans la cité des vivants, il habite dans la cité des morts, dans les sépulcres, pour montrer à quel point sa vie sociale est détruite. Si ses seuls amis, en quelque sorte, sont des sépulcres, c'est des morts. Il est donc lui-même, il est en quelque sorte demi-mort. Donc, destruction terrible dans la vie de cet homme. Et puis même dans l'histoire, on rapporte ce fait bizarre, que je ne maîtrise pas complètement, mais où le démon demande la permission d'entrer dans les pourceaux, ce troupeau de pourceaux. Et puis, les pourceaux se jettent dans la mer. Un fait curieux des évangiles, il faut l'avouer. Mais peut-être si on rapporte, c'est pour montrer que ces démons sont terriblement destructeurs. Ils ravagent tout. Et ils vont encore précipiter 3000 cochons dans la mer. Ils ne peuvent plus détruire la vie de cet homme, donc ils cherchent d'autres personnes, d'autres choses pour détruire. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus préfère sauver un seul homme que 3000 cochons pour montrer la valeur de l'être humain, d'une âme éternelle. Et une société qui préfère sauver un dauphin ou une girafe et avorter 3000 bébés, déjà s'est positionné du côté, du mauvais côté, du côté destructeur. On avance un peu pour voir le mal destructeur dans chaque cas. Le cas suivant concerne cette maladie, cette femme atteinte d'une perte de sang. On va arriver à Jairus aussi après. Pour l'instant, en parlant de cette femme, c'est très fort cette maladie ou cette infirmité dont elle souffre. On parle d'une perte de sang. Dans la Bible, le sang, c'est la vie. Donc, on voit encore cette maladie est typique d'une perte de vie, une perte de vitalité. Sa vie s'écoule. Il y a une perte qui est petit à petit, mais qui est même qui la détruit depuis l'intérieur. Probablement, cette perte de sang, il s'agit d'un problème gynécologique qui touche à son identité, sa fémininité, qui va vraiment détruire en quelque sorte son identité en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, probablement ça l'empêche d'avoir des enfants, ou si elle n'a pas l'enfant, ça l'empêche d'être mariée. Donc voilà quelqu'un, elle a l'air normale sur l'extérieur, peut-être le démoniaque, il n'avait pas du tout l'air normal, on voyait qu'il y avait un problème. Cette femme, elle a l'air normale, mais elle est une des personnes les plus isolées, les plus désespérées que l'on rencontre dans les évangiles. Quelqu'un qui est détruite au fond d'elle-même à cause de cette maladie qui atteigne vraiment son identité. Et c'est encore pire que ça, dans la culture de l'époque, selon les lois de Moïse, à cause de cette perte de sang, ce flux, elle est impure. Elle n'a pas le droit de toucher les autres. Elle est une intouchable. Et donc, elle est coupée de la société. Elle est impure. Dans cette histoire, on ne parle pas, elle n'est pas pécheresse en elle-même, mais dans l'Ancien Testament, cette impureté cérémoniale était image de péché. Et c'est notre problème aussi, le péché à l'extérieur. On a l'air d'être des gens normaux, des gens de bien, mais à l'intérieur, le péché peut nous détruire, nous rendre impurs, atteindre et bousiller notre identité. Et puis enfin, on se trouve devant le mal destructeur par excellence, dans le cas de Jairus et sa fille, c'est-à-dire la mort. La mort, c'est le mal destructeur qui ravage tout, qui détruit tout. Et puis ce Jairus, il est chef de synagogue et on apprend que c'est sa fille unique, une fille de 12 ans, une fille unique qu'il est en train de perdre. Et souvent, Luc, il souligne les cas ainsi où il y a un enfant unique, un fils unique d'une veuve, par exemple. En chapitre 7, ici, c'est la fille unique d'un chef de synagogue. Et ça, c'est fort aussi parce que, surtout dans cette culture, avoir une descendance, avoir un héritier, une héritière, c'était tellement important. Notamment pour un homme de cette stature dans la société, un chef de synagogue, c'est quelqu'un qui aurait dû avoir une famille, une bonne famille. Et voilà qu'il est privé d'enfants. Donc vous pouvez imaginer à quel point il est détruit dans son cœur, dans son âme, de voir sa fille unique mourir. Donc, on fait le constat que toutes ces personnes sont en péril. Toutes ces personnes peuvent dire, nous périssons, nous sommes ravagés par le destructeur. Et devant toute cette destruction, il y a quelque chose en nous, en chacun de nous, qui dit, qui devrait dire, tout ça, c'est pas normal. La vie ne devrait pas être ainsi. Nous n'avons pas été créés pour ça. C'est une chose qu'une vision sans Dieu, une vision athée, une vision purement matérielle ne peut pas très bien expliquer. La présence du mal, la présence de ce mal destructeur de nos vies, de notre identité, de notre bien-être. Par exemple, quand on est devant la mort d'une petite fille de 12 ans, fille unique de ses parents, en tant que parent, on ne peut pas dire « bah, c'est la vie, c'est normal, c'est comme ça ». Au fond, notre cœur dit non, c'est pas comme ça, ça ne devrait pas être comme ça. Il y a un intrus dans cette histoire, il y a un mal qui ne devrait pas y être. Et nous voyons à travers ces histoires que oui, le monde est brisé par la présence, quelque chose est détraqué par la présence de toutes ces forces destructrices qui ont été introduites depuis la chute. Le monde physique instable. Le malin, la présence du mal, du péché, la rébellion contre Dieu, la maladie et la mort, toutes ces choses, c'est pas normal. Un deuxième élément commun chez toutes ces personnes, je dirais, c'est un besoin de sauveteur. Puisqu'on commence un cas de bateau en mer, ils ont besoin d'un sauveteur. Mais ce qu'il faut voir, ce que Luc veut nous montrer, je pense, c'est que dans chacun de ces cas, il y a une incapacité totale de se sauver. En ce moment, j'ai vu, il y a la pub du Le Roi Merlin, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Entreprenez des travaux, faites-vous confiance. Mais à aucune de ces personnes, on se permettrait de dire, voilà, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, ça va bien se passer. Faites-vous confiance. Non. Ils sont en extremis, ils sont au bout de leur force, ils ont besoin d'une aide extérieure. La tempête, qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre cette tempête? On sait que ça ne va pas quand les pêcheurs expérimentés demandent aux charpentiers endormis de les dépanner. Ça veut dire que l'heure est grave. Galilée, ce sont ses disciples, ils ont grandi à Galilée, c'était des pêcheurs de poissons au bord de ce lac. Ils connaissent ce lac, ils connaissent les choses qui arrivent sur ce lac, mais ce jour-là, c'est exceptionnel. Ils ne maîtrisent plus, ils sont vraiment en péril et ils ne peuvent rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire contre un cyclone, un tourbillon comme ça? C'est aussi ce qu'on va souligner, je pense, pour ce démoniaque en verset 29, qu'il est incapable lui-même de réparer sa situation, de défaire le mal. On dit en verset 29, « Depuis longtemps, on le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens. » C'est le comble. Ni cet homme, ni son entourage peut faire quelque chose pour lui, pour le calmer, pour l'aider, pour le dompter. Rien. Et puis, pour enfoncer le clou de la situation, on rappelle qu'il est possédé non par un seul démon, ce qui serait déjà in extremis, mais légion, un démon qui s'appelle légion. Alors, un légion dans l'armée romaine, c'était 6000. Est-ce qu'il y a 6000 là-dedans? Je ne sais pas. En tout cas, ils sont plusieurs. Mais voilà, pour montrer qu'il est dans l'incapacité totale de faire face à une légion de démons. Et puis la femme atteinte, pour avancer, verset 43, on souligne qu'elle avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu le guérir. Là encore, elle a tout fait et maintenant, elle a besoin d'un salut qui vient d'ailleurs. Et enfin, Jairus. Déjà, on voit qu'il est en extremis, qu'il se jette aux pieds de Jésus, il le supplie de venir dans sa maison. Et jusque-là, il y a peut-être une lueur d'espoir parce que sa fille est encore en vie. Donc, il espère que Jésus puisse se dépêcher pour arriver chez lui pour guérir sa fille. Mais, pour rendre la situation encore plus dramatique et désespérée, Jésus s'arrête en chemin et il s'entretient tranquillement avec... Il gère le problème d'une autre personne, cette femme atteinte d'une perte de sang. Et pendant qu'il est en train de s'occuper de cette femme, là, on vient de lui apporter la nouvelle que sa fille est morte. Donc la situation vient de s'aggraver. Un côté désespéré, une incapacité totale. Lisez ce chapitre et sentez leur impuissance, leur besoin d'un sauveteur. Dans chaque cas, la personne elle-même ne peut rien. Et puis, sentant notre incapacité, notre impuissance devant le mal en nous, devant le mal dans le monde, c'est notre cas aussi, c'est notre situation spirituelle, besoin de sauveteur, une incapacité totale. Toutes les autres religions, les autres philosophies disent en gros, voilà, tu peux te sauver toi-même, fais-toi confiance, faites-vous confiance. Il n'y a que la Bible, que l'Évangile qui dit, tu as besoin d'un sauveteur, tu as besoin d'une intervention d'ailleurs, d'en haut. Et c'est ce que Luc va montrer. Beaucoup estiment qu'un des versets clés de Luc, c'est chapitre 19, verset 10. Je crois que les enfants ont dû apprendre ça à un club récent, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors là, on retrouve les deux mots clés ce matin. Sauver, c'est ce même mot, tsozo, sauver, guérir. Et perdu, c'est le même mot, nous périssons. Que les disciples en disent, ce mot apollyon, détruit, donc Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, ou on pourrait aussi traduire ceux qui étaient détruits, ou ceux qui périssaient. Et justement, ici c'est peut-être le cas par excellence où Jésus va chercher, sauver quelqu'un qui est perdu, il va traverser la mer de Galilée, débarquer dans ce pays des Gérasiniens, il va sauver cet homme et puis il va repartir. Donc c'est vraiment mission sauvetage. J'arrive, je sauve cet homme, il l'avait ciblé en quelque sorte, et puis il repart, continuer ses missions de sauvetage. Et ce qu'il a fait pour cet homme, cette traversée pour sauver quelqu'un qui était perdu, c'est ce qu'il a fait pour vous, c'est ce qu'il a fait pour moi, c'est ce qu'il a fait pour toi. Il est venu en mission de sauvetage pour chercher, sauver ceux qui étaient perdus, comme toutes ces personnes qui sont perdues, périssantes, en détresse. Un troisième facteur commun à toutes ces histoires que nous pouvons voir, c'est l'autorité du Seigneur. On est devant toutes ces forces destructrices, ces forces fortes. Et pour calmer, pour dompter ces forces, il faut quelqu'un de plus fort. Évidemment, il faut une autorité plus grande. Et c'est ce que Luc veut montrer ici, que voilà, Jésus est plus fort, il a une autorité plus grande que toutes ces forces de mal. Et c'est pour ça qu'on trouve, il commande au vent. Voilà, il commande au vent. Il leur dit de se calmer. Après, il passe au cas suivant, il commande aux démons de sortir, de partir. Et puis j'aime bien en verset 54, pour voir encore un peu son autorité. Là, c'est avec la fille, il est devant la mort, devant la fille de Jairus. Et verset 54, il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi ». Il y a deux mots forts ici dans ce verset, c'est saisir, c'est pas juste prendre la main, mais c'est vraiment, toutes les autres fois on utilise ce mot, c'est pour saisir quelqu'un, c'est pour attraper quelqu'un. Et donc il saisit la main et puis il dit d'une voix forte, comme s'il avait besoin de parler fortement, pas forcément, mais il dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Eh bien, c'est clair, il est en train d'arracher, il arrache à la mort sa proie. Il menace la mort. Il lui dit, voilà, cette fois-ci, tu n'as pas le droit de me garder. Tu n'as pas le droit de l'avoir. Elle est à moi. Et il l'arrache avec l'autorité dont il dispose, l'autorité même face à la mort, en disant, voilà, elle est à moi, je reprends ce qui est à moi. Je refais, je recrée la vie comme j'avais envisagé depuis le début dans le jardin d'Éden, où j'avais pas cette pensée que les filles de 12 ans, les enfants uniques de leurs parents, meurent comme ça. Donc, enfant, lève-toi. Vous voyez, chaque fois, il y a une confrontation, en quelque sorte, entre les forces, entre le mal et Jésus. Et Jésus se montre plus fort devant la mer en tempête, devant le malin, devant la maladie et devant la mort. Et là, nous avons un résumé de la bonne nouvelle de la Bible. Jésus, c'est ce qu'il est venu faire. Il est venu confronter nos ennemis. Il est venu confronter le mal pour le rendre impuissant. Mais pour accomplir cette mission de sauvetage, il est venu et lui-même s'est mis dans la tempête. Toute cette puissance, toute cette autorité dont il dispose, eh bien, il a utilisé. Mais pour l'utiliser, il a dû rencontrer le mal, il a dû se mettre en face du mal. Et ce que nous voyons ici, il était dans la barque, il s'est mis, lui, dans la tempête en quelque sorte. Il a accompagné les disciples, il savait que cette tempête allait venir, il a choisi d'être avec eux pour la confronter. Après, on pourrait dire, mais ça ne le coûte rien de claquer ses doigts et de faire taire la tempête, de chasser le démon, de guérir une femme, de soulever l'enfant de la mort. On pourrait dire, c'est facile pour lui. Ça semble facile ici, mais en fait, ça lui a coûté. Déjà, dans la guérison de cette femme, il peut dire, une force est sortie de moi. C'est étonnant parce que... on ne pense pas à ce qu'il agissait comme ça, mais... pour guérir cette femme, sauver cette femme, et il a perdu quelque chose. Une force est sortie de lui. Et ce qu'il a fait pour nous aussi. Un jour, il va sauter dans la tempête, la vraie tempête, la tempête de la colère de Dieu, la tempête qui est conséquence de nos péchés, de notre rébellion contre Dieu. Et c'est là qu'il va le prendre en plein fouet. Vous voyez, il va diriger tout ce mal destructeur, il va le diriger contre lui à la croix pour nous en protéger, nous en sauver. Nous, dans le cri de l'humanité, notre cri, nous périssons. Jésus dit, ok, je viens et je péris à leur place. Je me mets dans la tempête pour les sortir de la tempête. Et c'est parce qu'il a fait ça qu'il a l'autorité sur la mort. Une autre fois où Jésus a parlé d'une voix forte dans cet évangile, c'est juste à la fin de sa crucifixion. Et là, il était vraiment en face de la mort, en face de cet ennemi qui est la mort. Et là encore, il crie d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et dans d'autres évangiles, tout est accompli. C'est pour dire, voilà, j'ai affronté la mort, je péris, mais je ne suis pas perdant, j'ai gagné face à la mort et maintenant toute autorité, tout pouvoir est entre ses mains pour nous sauver. Et un dernier facteur commun, une petite foi. C'est ça qui est fort dans ces histoires. Quel genre de foi trouvons-nous chez toutes ces personnes qui ont connu un salut, une délivrance merveilleuse? Est-ce que nous trouvons une grande foi héroïque, une foi béton à laquelle on s'attendrait parmi les histoires et les héros de la Bible? Eh bien non, nous trouvons dans chaque cas une foi tremblante, une foi craintive, une foi quasi non existante. Et c'est pour nous montrer clairement que ce n'est pas la grandeur de notre foi qui sauve. Mais la vraie question, c'est celle de Jésus en verset 25, où il leur demande « Où est votre foi ?» Pas « Quelle taille est votre foi ?» mais « Où est votre foi ?» Et ça, c'est vraiment la bonne question pour nous aussi. Où est-elle ? C'est-à-dire, où se place-t-elle ? Où la mettre ? Et ce qui est commun chez toutes ces personnes, c'est une petite foi dans un grand sauveur, vous voyez? Une petite foi dans un grand sauveur. Et peut-être c'est cette femme qui l'illustre le mieux. cette femme atteinte d'une perte de sang, on voit que sa foi est tremblante. Elle se dit, peut-être je vais juste toucher le bord de son vêtement. Je n'ose pas le saisir à bras le corps, juste le bord de son vêtement. Donc ce petit geste, on se dit, mais ça vaut rien, ça compte pour rien, toucher le bord du vêtement de Jésus. Il n'y a rien de magique, de mystique dans toucher le vêtement de Jésus. D'ailleurs, toute la foule pressée autour de lui, aucun n'a senti une force magique prendre lui. Donc c'était pas tant le vêtement qui comptait. C'était sa foi, c'était sa manière d'exercer sa foi. Et c'était une toute petite foi, mais dans un grand sauveur, un grand Seigneur. Et puis elle qui voulait rester discrète à cause de son cas, son problème, Jésus arrête tout le monde, il dirige toute l'attention contre elle. On pourrait dire que ce n'est pas très sympathique de sa part de mettre en avant cette femme, perte de sang, un peu gênant, tout ça. Mais finalement, en lui demandant de prendre position comme ça, ça va faire du bien à sa foi, à la foi de cette dame. Et en la mettant là devant tout le monde, c'est exactement ce qu'il fallait pour la restauration complète de cette femme. Parce qu'en verset 47, elle va déclarer devant tout le peuple pourquoi elle avait touché. Et comment elle avait été guérie à l'instant. C'est-à-dire maintenant, elle n'est plus intouchable parce qu'elle atteste devant bien des témoins que ça y est, je suis guérie. Et elle va pouvoir être réintégrée complètement dans la société. Et elle va pouvoir plus d'isolement, je veux dire, mais d'une intégration totale. Et vous voyez, c'est une guérison complète. Une petite foi, mais dans un grand sauveur. C'est ça qu'il faut. Il vaut mieux une petite foi dans un grand sauveur qu'une grande foi dans un petit sauveur. Mais c'est le résumé de notre monde. Il y a des gens qui croient ferme, dur qu'on fait, mais ils choisissent des appuis fragiles, petits. Alors que la Bible nous invite à plutôt choisir le grand sauveur et pouvoir répondre à la question qui est celui-ci et trouver un autre qui peut gérer à la fois le monde naturel, physique, le malin, la maladie et la mort. Qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Et je termine en disant, pour ceux qui ont répondu honnêtement à cette question, qui est celui-ci qui peut faire ça et ça et ça et ça, comme nous avons vu dans Luc chapitre 8. Qui est celui-ci? Si on répond honnêtement à la question, ça peut être très troublant. D'ailleurs, les disciples, ils étaient presque plus effrayés après que la tempête soit calmée qu'avant, parce qu'ils se trouvent en face de quelqu'un qui est plus grand, qui est plus fort, et il était là, dans la barque avec eux. Ils étaient effrayés, dit le texte. Et puis, les habitants du pays des Gérasséniens, c'était le même cas. Quand ils ont vu une telle personne, et ce qu'il a fait pour cet homme démoniaque, quelle était leur réaction? Est-ce que tu peux repartir, s'il te plaît? C'est trop troublant pour nous d'être face à une telle personne. Vous voyez, si vous répondez honnêtement à la question « Qui est celui-ci ?», ça pouvait être troublant. Une telle personne qui n'est rien de moins que Dieu lui-même, Jésus-Christ, une telle personne pourrait être une menace pour notre vie. Il pourrait nous commander. Il pourrait exiger d'être notre Seigneur. Mais ne voulez-vous pas de lui quand même? Ne voulez pas être saisi par la main de celui qui veut vous arracher de la mort, de l'emprise du péché, qui peut vous arracher de la tempête parce qu'il a prouvé son amour pour vous en plongeant lui-même dans cette tempête pour vous en sortir. Alors, ne craignons pas, croyons seulement